Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Dans l'émission d'Atacrone, le grain de sable. Donc aujourd'hui, nous recevons Keith Dixon, que nous remercions vivement donc, d'avoir accepté notre invitation. Donc Keith Dixon, qui est professeur honoraire de civilisation britannique à l'Université de Lyon 2, qui est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la politique britannique contemporaine, notamment sur la question de la montée du néolibéralisme sous l'époque thatchérienne, et également aussi sur la suite et l'héritage thatchérien qu'on a retrouvé chez Anthony Blair. Oui. Et vous êtes également militant, notamment dans le réseau Raison d'agir, et également directeur de la collection écossaise aux éditions Métayer. Et donc, nous vous recevons pour parler donc du Brexit et de la Grande-Bretagne, et notamment donc les causes. On peut revenir aux origines. Autant l'histoire un peu à long terme, loin des décennies précédentes, et également le contexte actuel qui a conduit au référendum et ensuite au vote pour le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc, alors, qu'est-ce qui était reproché, comment les partis se sont positionnés, et également revenir sur le rôle et la relation qu'a eu la Grande-Bretagne dans la construction de l'Europe, et notamment sur, on l'a dit souvent, instigatrice d'une Europe libérale. Revenir aussi un peu sur l'histoire du travaillisme et également du positionnement et du déclin des syndicats, qui est aussi une conséquence de tout ce qu'on vient de dire. Et ensuite, parler de l'impact et des suites donc, de ces référendums, notamment par rapport à la division que ça a pu créer dans le pays, ou même dans les partis. Également, comment aujourd'hui est vue la Grande-Bretagne et comment elle se repositionne dans ses relations internationales. Donc je ne sais pas si la façon dont je vous ai présenté est suffisante, si vous voulez ajouter des choses, ou si on peut donc rentrer directement dans son sujet. Donc on revient donc en juin 2016, donc avec un Brexit qui est voté, alors je ne sais pas si, on va y revenir, si c'était une surprise ou pas, du moins.
On peut dire que c'était pas du tout le plan A. Le résultat du Brexit, le pari de Cameron, le Premier ministre conservateur, c'était de proposer un référendum qui pensait gagner, c'est-à-dire qu'il était persuadé que ça permettrait d'une part de calmer une partie de l'opposition interne au Parti conservateur qui était très critique par rapport à l'Europe, mais en même temps, il pensait qu'il y avait une majorité assurée pour le maintien de la Grande-Bretagne en Europe. C'est-à-dire, c'est un pari perdu.
Mais il y a un peu toujours un aspect dans un référendum de la question qui est posée et aussi un petit peu de l'approbation de celui qui l'a... Il l'a proposé.
Oui, là on est dans un scénario quand même un peu différent. Un scénario d'ailleurs qui s'est transformé en piège pour Cameron lui-même, puisque la conséquence politique immédiate du résultat du référendum, c'est que Cameron s'est senti dans l'obligation de démissionner, donc d'ouvrir un espace pour une personnalité politique qui n'était pas particulièrement connue. Elle était ministre de l'Intérieur, Theresa May, mais elle n'avait pas, on ne pouvait pas la considérer vraiment comme une personnalité politique de premier rang. Voilà. Donc, un plan A, donc, qui a on va dire qu'il a dysfonctionné, et pas vraiment de plan B, il faut le dire. C'est-à-dire que les conservateurs ont été pris de court devant le résultat du référendum et ont pris un certain temps pour savoir déjà comment ils allaient engager et de quelle manière ils allaient engager les négociations du Brexit.
La suite n'était pas du tout anticipée, préparée.
Pas du tout. Beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitudes, au moins dans un premier temps. D'ailleurs, on peut dire que le terme d'incertitude est le terme qui qualifie essentiellement l'ensemble du processus jusqu'à présent du Brexit.
Oui, encore aujourd'hui. Oui.
Quelle a été la sociologie du vote ?
Alors, la sociologie du vote, pour parler dans un vocabulaire qui est le mien, mais qui est un peu ancien, c'est un vote transclasse. Hein, vous avez effectivement les couches moyennes, la petite bourgeoisie rurale du sud-est de l'Angleterre, bastion du conservatisme traditionnaliste. Mais vous avez aussi, dans ceux et celles qui ont voté pour le retrait de l'Union européenne, des couches populaires, ce qui reste de la classe ouvrière, du prolétariat industriel du nord, du nord-est de l'Angleterre, et aussi ce qui a beaucoup surpris, les ouvriers des couches populaires du sud du Pays de Galles. Alors j'ai dit qu'il y a beaucoup surpris parce qu'il y a une longue tradition de lutte, d'activité internationaliste dans les bassins miniers ce qui reste des bassins miniers du sud du Pays de Galles. Donc c'est un mélange. Alors je pense que ça vaut la peine de le rappeler parce que on a peut-être un peu trop rapidement réduit le vote du Brexit à un vote raciste et xénophobe. Il y avait bien sûr, je pense, une très forte composante raciste et xénophobe, mais ce vote n'était pas seulement cela. C'était, on peut dire, la conjonction de mécontentements différents, hein, très différents, dont certains portaient effectivement sur l'immigration, sur la migration, mais aussi d'un mécontentement qui grandait depuis longtemps et qui concerne très spécifiquement le déclin industriel de la Grande-Bretagne. Les régions qui ont voté plus par rapport au Brexit, je mentionnais tout à l'heure, le nord, le nord-est de l'Angleterre, c'est les anciens bastions industriels de la Grande-Bretagne qui ne le sont plus et où des vrais emplois industriels ont été remplacés essentiellement par des emplois précaires, quand il y a de l'emploi.
Donc c'était des griefs, on ne reprochait pas forcément des choses par rapport à l'Europe, il y avait aussi des choses internes, des choses liées
à
l'économie.
Oui, je pense que c'est un mélange, mais je pense que, bon, là aussi... il faut être relativement clair. Si on compare deux choses, le référendum de 1975, parce qu'on a déjà eu un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne au sein de ce qui était à l'époque la communauté européenne. Si on compare le référendum de 1975 avec le dernier référendum de 2016, la très grande différence, c'est que les voix qui défendaient le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque, ces voix étaient plutôt de gauche. C'était la gauche travailliste a imprégné le débat en 75. Ils ont été battus assez nettement. Hein. Il y a plus de 60% des Britanniques qui avaient voté pour se maintenir, juste après les négociations pour y rentrer, se maintenir au sein de l'Europe. Mais l'argument principal qu'on entendait, la problématique principale qui était déroulée était une problématique plutôt de gauche. Hein, l'idée que l'Union européenne, la communauté européenne, serait toute une série d'entraves à une politique véritablement socialiste en Grande-Bretagne. Voilà. Alors que, en 2016, les voix dominantes étaient les voix qui portaient sur une seule question obsessionnelle qui était les migrants, le rôle des travailleurs, non seulement des migrants On ne parlait pas seulement des Afghans et des Syriens, mais aussi des travailleurs européens, aussi, je dis aussi et surtout, hein, des travailleurs européens, une véritable fixation sur les travailleurs de l'Europe de l'Est en particulier.
Ce qu'on appelle les travailleurs détachés ou les...
Ah oui, bien sûr, la question des travailleurs détachés était déjà en Grande-Bretagne au centre des discussions sur les effets perçus par certains néfastes de la circulation, la libre circulation de travailleurs venant des pays de l'Est.
Et est-ce qu'il y a eu quand même une voix, alors est-ce qu'elle a été audible, de la société civile et pas seulement des partis pour se positionner pour ou contre le retrait? Je pense notamment aux syndicats.
Alors les syndicats, vous savez, hein, depuis, historiquement parlant, les syndicats ont beaucoup décliné en Grande-Bretagne. Mais lorsqu'on dit que les syndicats britanniques ont beaucoup décliné... il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, le taux de syndicalisation est à 25%. En France, entre 7 et 8. Hein? Donc, beaucoup décliné, mais c'est encore une force réelle. Il y a des syndicats qui ont... Le mouvement syndical a été, comme le reste de la gauche, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, divisé sur la question, hein, du maintien ou non, du oui ou non au référendum. Mais il y a eu une forte intervention, par exemple, du syndicat des transports, RMT, qui est un gros syndicat, c'est un gros bataillon du syndicalisme britannique, plutôt en faveur du retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. La raison principale pour laquelle RMT s'est battu pour le retrait, c'est que RMT est pour la renationalisation des chemins de fer britanniques et considère que, étant donné les règles actuelles de l'Union européenne, une telle renationalisation ne serait pas possible. Voilà. Donc, oui, il y a eu une forte intervention des syndicats. Il faut dire que les autres syndicats essentiellement ont été sur la position de Corbyn, le nouveau dirigeant du Parti travailliste, qui lui a été sur une position qui était difficile à faire entendre à l'époque, mais qui était qu'il fallait rester au sein de l'Union européenne pour la transformer. Mais c'est effectivement quelque chose qui a eu du mal à se faire comprendre pendant la campagne.
Ben c'est le cas aussi en France, finalement.
Bien sûr.
C'est un débat qui agite...
Ah non, il n'y a rien de particulièrement isolé
la gauche,
dans l'argumentaire ou dans les débats britanniques. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve à peu près dans les débats français, y compris entre... À gauche, par exemple, entre ceux qui se sont battus pour le maintien de la Grande-Bretagne et ceux qui se sont battus pour le retrait, ils étaient à peu près sur les mêmes positions critiques par rapport à l'organisation actuelle de l'Union européenne. Ce qui les séparait, c'était l'optimisme ou le pessimisme. Les optimistes pensaient que c'était encore possible de transformer l'Union européenne. Les pessimistes considéraient que c'était cuit et qu'il fallait se tirer de l'Union européenne. Voilà.
Donc on a parlé de la sociologie des votes pour le retrait, mais il y a quand même eu aussi des régions qui ont voté pour, enfin qui ont plutôt
pour le maintien.
Pour le maintien. Ouais. Et là, les raisons ou
alors
l'optimisme.
En Grande-Bretagne, de plus en plus, je me rends compte quand je rentre chez moi, sensible au vocabulaire qu'on utilise pour parler des aires géographiques, parle plus de régions chinoises, c'est des nations. Hein. Donc, je parle du Pays de Galles, de l'Écosse, de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord. Et effectivement, c'était pas une découverte, mais ça a été un des faits marquants du référendum, c'est qu'il y a eu une forte différenciation entre les différentes nations de l'État multinational britannique. Avec, d'une part, l'Angleterre qui a voté à peu près à 53% pour le départ de l'Union européenne, alors que l'Écosse à 62% et l'Irlande du Nord à 55% voté pour le maintien au sein de l'Union européenne. Mais je travaille sur les causes depuis longtemps et je vois que c'est assez compatible avec l'idée aujourd'hui que les Écossais veulent transmettre d'eux-mêmes l'image qu'ils aimeraient qu'on ait de l'Écosse et des Écossais, à savoir qu'ils sont plus internationalistes que leurs voisins anglais. Et ça se vérifie un peu dans les faits. De plus en plus, il y a un peu de mystification autour de ça, mais ça se vérifie un peu dans les faits. Mais c'est vrai qu'il y avait un fort mouvement en faveur du maintien, et c'était aussi une façon, une fois de plus, de se distinguer de Londres. Donc, mener campagne pour le maintien au sein de l'Union européenne, c'était de dire aussi qu'on n'est pas des Anglais. Donc, vient nécessairement à la suite de ce constat la question nationale, c'est-à-dire la question de la place de l'Écosse et de l'Irlande du Nord au sein de l'Union britannique. Il est absolument certain que depuis le référendum, cette place-là, la place de ces deux nations au sein de l'Union britannique, est plus problématique qu'avant.
Même s'il y avait déjà eu un référendum
en Écosse. Il y a déjà eu en 2014 un référendum qui a eu un résultat assez net, 55-45. Mais à l'époque, j'avais écrit que c'était une question qui n'allait pas disparaître. 45% des votants qui disent qu'ils veulent être indépendants, c'était une question qui était encore en suspens. Voilà. Depuis le référendum, la première ministre écossaise a remis sur le tapis la question d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Donc on peut s'attendre à ce que d'ici... Alors il y a une discussion, pour ne pas dire une polémique, entre Londres et Édimbourg sur la date d'un tel référendum que les Écossais voudraient organiser avant le départ final de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, et que May ne souhaite pas laisser s'organiser avant, donc elle veut que ça soit après le départ. Et il faut dire que du point de vue constitutionnel, il n'y a pas de discussion. C'est May qui décide, ce n'est pas Sturgeon. C'est une décision...
Sturgeon qui est la première ministre écossaise.
Mais bon, donc là maintenant, on se pose la question, une fois de plus, de nouveau, très rapidement, historiquement parlons, après le premier référendum de l'indépendance de l'Écosse, et puis il y a la question sensible de l'Irlande du Nord. Pourquoi sensible? Parce que, pour aller très vite, maintenant qu'on est dans une négociation sur le Brexit, on sait que... il va y avoir entre l'Irlande du Nord, qui continuera à faire partie de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et la République irlandaise du Sud, donc, il y aura une vraie frontière, puisque ce sera une frontière entre l'Europe, l'Union européenne, et la Grande-Bretagne. Sauf que, en 1998, lors de l'accord de paix en Irlande du Nord, il a été explicitement indiqué qu'il y aurait une libre circulation entre le Nord et le Sud. Si on arrête la libre circulation entre le Nord et le Sud, il y a toutes les chances, si on peut parler comme ça, il y a un risque extrêmement fort que ce qu'on a appelé pudiquement en Grande-Bretagne les troubles, la guerre civile, recommence.
Ah oui, à ce point-là.
Oui.
C'est très sensible.
Certains militants de l'IRA ont déjà commencé à parler de ressortir les armes.
Et sachant qu'il n'y a pas... Enfin, cette frontière, elle est obligatoire en cas de sortie de l'Union ou dans les négociations qui peuvent se faire.
On
peut envisager des aménagements.
Il va y avoir discussion. Mais ce que je disais tout à l'heure, il y a une incertitude incroyable autour de l'ensemble de la question du Brexit et des conséquences de cette décision, de ce vote. Et là, c'est... un des éléments d'incertitude Sauf que on voit difficilement comment, si la République reste au sein, ce qui sera le cas, au sein de l'Union européenne, comment on peut éviter de mettre une frontière, une vraie frontière, avec des gardes frontières entre, si ce n'est que pour les problèmes obsessionnels des Britanniques, d'immigration. Hein, là, je pense que ça va être un vrai souci.
Donc on voit qu'effectivement ce Brexit est un saut dans l'inconnu, oui. Et on y revient après une pause musicale. Et donc vous êtes toujours dans l'émission Le Grain de Sable, donc consacrée au Brexit avec Keith Dixon. On vient d'écouter un Irlandais, on en parlait juste avant la pause, donc un Irlandais, Neil Allen, qui nous chantait « When lights go out all over Europe ». Je ne me rappelle plus trop si ça doit être à peu près ça. Voilà, donc on reprend, donc on a un peu exposé donc les raisons du vote, ce qu'on disait un petit peu la sociologie du vote pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et là, on va revenir un petit peu, là, c'était les raisons, le constat au moment du référendum, mais comment s'est construite aussi la relation parfois ambivalente de la Grande-Bretagne avec l'Europe, et aussi de son influence qu'elle a pu avoir sur... sur ces politiques.
Oui, je pense que c'est utile hein, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, de faire un petit saut en arrière, c'est-à-dire jusqu'en 45, la période immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Je dis ça parce que j'ai entendu souvent à la radio, à la télévision française, des gens citer Winston Churchill, qui aurait été un des grands Européens, premiers grands Européens britanniques. Ce qui fait sourire ceux et celles qui connaissent bien l'histoire de la Grande-Bretagne, puisque Churchill était sur la position qui a été celle de la quasi-totalité des dirigeants britanniques dans les années 40-50, qui était que la construction européenne était une très bonne chose pour les autres, pas pour la Grande-Bretagne, pour les autres. La Grande-Bretagne, à cette époque-là, selon ses dirigeants politiques, et là je ne fais pas de distinction entre les travaillistes et les conservateurs, la Grande-Bretagne jouait, elle, dans la cour des grands. Et elle n'allait pas se mélanger avec un regroupement des petits. Voilà. Et il a fallu quand même assez longtemps pour que ce qu'un historien a appelé cette hallucination de puissance de la Grande-Bretagne finissent par se dissiper. Alors, si on veut une date, je pense qu'il y a quand même une date qu'on peut mettre à la fin de cette illusion de grandeur, c'est 56. C'est la crise de Suez, qui était bien plus traumatisante, je crois, dans l'histoire britannique que dans l'histoire française. C'est à ce moment-là que les Britanniques ont compris que sans le soutien de leur allié le plus proche, les États-Unis, ils n'étaient rien. Ils avaient beau avoir eu une première victoire, succès militaire sur le régime de Nasser, ils ont été obligés de faire marche arrière, justement parce que les États-Unis, le Canada et l'Inde, donc les deux principaux pays du Commonwealth à l'époque, avaient pris position contre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un début de prise de conscience des dirigeants politiques britanniques qu'il fallait qu'ils se reposent la question de leur insertion dans un bloc, hein, dans le bloc européen.
Oui, parce qu'être le petit tout seul dans la cour des grands, c'était pas
voilà,
si bien.
Voilà, c'était fini. Cette illusion-là s'est éclatée sur la crise de Suez. Donc, c'est à partir des années 60, hein, il y a un petit temps de retard, mais c'est à partir des années 60 que conservateurs et travaillistes commencent à se poser la question de l'entrée en Europe. Mais il y a un obstacle majeur qui s'appelle le général de Gaulle, hein, et donc il va falloir que les Britanniques, ils attendent que de Gaulle ne soit plus sur la scène politique pour qu'ils puissent rentrer dans l'Union européenne. Mais si on reprend les positions qui ont été celles historiquement des pro et anti-européens en Grande-Bretagne, on voit qu'il y a des échos assez forts de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a toujours eu en Grande-Bretagne, un courant xénophobe au sein du Parti conservateur qui considérait qu'il ne fallait pas se mélanger avec les Européens. Et il y a toujours eu, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, au sein du Parti travailliste, un courant, le courant de gauche, qui a été à certains moments assez puissant et qui considérait que les règles telles qu'elles avaient été édictées de la communauté européenne constituait autant d'entraves à ce qu'eux voulaient faire de l'avenir de la Grande-Bretagne.
Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, le socialisme.
Voilà. Donc, voilà, je pense que un peu de mise en perspective nous permet de comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de surprise au moment du référendum de 2016. Ce sont des débats et des discussions qui sont assez anciennes en Grande-Bretagne. Il faut ajouter à cela l'expérience de Thatcher. Thatcher, comme vous le savez, a été une personnalité marquante, suffisamment marquante pour que M. Macron la considère comme un modèle en Grande-Bretagne, ce qui est loin d'être mon cas. Mais Thatcher a fait ce qui était pour elle l'expérience amère de la construction européenne, elle a tiré la conclusion lorsque elle a quitté le pouvoir en 90, elle avait tiré elle-même la conclusion que l'Union européenne n'était pas réformable. Alors je sais, ce que vous allez me dire, c'est que les Britanniques eux-mêmes ont beaucoup œuvré pour qu'il y ait une néolibéralisation.
Oui, elle est quand même un peu à son image.
Voilà. Mais Thatcher considérait que ce n'était pas allé assez loin, hein, que malgré tout, il y avait trop d'obstacles à la transformation de l'espace européen en espace de marché, en espace néolibéral. Et elle tirait les conclusions elle-même à la fin, lors de son dernier discours en 2002, avant de se retirer de la vie politique, elle considérait que la Grande-Bretagne ferait mieux de quitter l'Union européenne et de reconstruire un espace de libre-échange avec ses alliés les plus proches, à savoir avec les États-Unis. Donc un espace de libre-échange nord-atlantique.
La situation, la proximité géographique n'ajoutait rien.
Non, mais ça c'est encore une des grandes illusions de l'histoire britannique, à savoir l'idée que la Grande-Bretagne a une relation spéciale avec les États-Unis, ce qui, on le sait, faisait beaucoup sourire les dirigeants américains. Je veux dire, il n'y a que les Britanniques qui pensaient qu'ils avaient une relation spéciale avec les Américains. Mais cette illusion-là, elle est forte, elle a encore de la vie devant elle en Grande-Bretagne. On voit que c'était une des choses qui anime actuellement Theresa May, qui pense que elle peut jouer la carte Trump, était une des premières, vous vous rappelez, à faire le voyage pour rencontrer le nouveau président américain. Je pense que là, on est dans l'illusion la plus pure, c'est-à-dire que considérer que les Américains y vont comme ça, accepter d'avoir des relations privilégiées avec la Grande-Bretagne, qui, comme on vient de constater, n'est plus une grande puissance. Surtout si les Britanniques pensent que les Américains vont distribuer des cadeaux lors de la construction de cette relation, je pense qu'ils font des illusions terribles. On a un précédent historique. En 1945, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a pris fin, la Grande-Bretagne devait une somme importante aux États-Unis pour les munitions et le matériel militaire qui avait été fourni par les États-Unis en la Grande-Bretagne. Et le nouveau Premier ministre travailliste, Attlee, était persuadé que des amis américains allaient simplement annuler la dette britannique envers les États-Unis. Ben, c'était mal connaître la politique des États-Unis. Les États-Unis ont accepté de rééchelonner la dette britannique, mais les Britanniques ont payé. Ils n'ont pas tout payé, mais ils ont payé largement le matériel qui avait été fourni par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme on dit chez moi, pas de no free dinners, hein, pas de cadeaux. Je pense de la part des Américains, là c'est plutôt une piste illusoire si Theresa May pense qu'elle va remplacer l'insertion britannique en Europe par une relation économique privilégiée avec les Américains.
D'autant que Trump est plutôt sur des visées très protectionnistes et il n'y a pas de raison que la Grande-Bretagne soit mieux traitée que,
oui, bien sûr,
que les autres.
La Grande-Bretagne est aussi une économie concurrente.
Oui. Donc en fait, la Grande-Bretagne, le gouvernement actuel doit faire face au résultat d'un référendum qu'il ne souhaitait pas vraiment. Mm-hmm. Voilà. Donc d'où les négociations très difficiles qui sont menées aujourd'hui. Et en même temps, ce gouvernement est confronté finalement à une position des États-Unis qui ne leur est pas non plus favorable.
Oui, mais
donc ils sont toujours entre deux, quoi.
Oui, sauf que je pense qu'il faut il faut faire un peu attention. C'est vrai que il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment les négociations vont s'engager. C'est vrai que il y a des idées qui ont été émises par Theresa May en particulier qui semblent peu pensables. L'idée, par exemple, que les Britanniques vont pouvoir continuer à circuler librement sur l'espace européen, alors que des Européens ne pourraient plus circuler librement en Grande-Bretagne. C'est une idée qui a été énoncée par May, mais c'est de toute évidence, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se passer comme ça. Ceci étant dit, si on regarde la situation politique en Grande-Bretagne depuis le référendum, les conservateurs ont plutôt gagné politiquement sur cette lancée. Les dernières élections locales qui ont eu lieu la semaine dernière ont montré que les conservateurs ont encore le vent en poupe. Ils ont gagné alors qu'ils sont au pouvoir. Donc en Grande-Bretagne, en général, lorsqu'il y a un parti qui est au pouvoir, les élections locales sont plutôt favorables à l'opposition. C'est tout le contraire qui est arrivé cette semaine, où le Parti travailliste a perdu des centaines de sièges au sein des conseils municipaux. Les conservateurs ont été plutôt les vainqueurs.
Et il faut l'analyser comme une acceptation oui. suite au référendum.
Oui, je pense que pour le moment, il y a un soutien. Avec toutes les réserves que j'ai déjà émises, il y a un soutien anglais dans le sens Angleterre.
C'était des élections qui n'avaient pas lieu partout.
Oui, c'est des élections qui ont lieu en Angleterre et au Pays de Galles. Mais ce que je veux dire, c'est que apparemment, on verra bien, il y a des élections générales au mois de juin. Donc la campagne électorale commence à peine, mais pour le moment, les signes sont plutôt positifs pour les conservateurs et plutôt négatifs pour le Parti travailliste.
Et cette campagne, elle est toujours sur les thèmes du Brexit ?
Oui, bien sûr, c'est la question. Ça reste la question centrale. Pour le moment, les conservateurs se sont plutôt bien sortis de cette affaire, avec, bien sûr, une réserve majeure qui est, ils se sont bien sortis en Angleterre. Ce n'est pas le cas en Écosse, ce n'est pas le cas en Irlande du Nord. Et on peut aller, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut tout à fait aller vers une crise politique majeure avec l'Écosse et l'Irlande du Nord. Alors, l'autre question qui se pose, c'est de savoir si le Parti travailliste peut se reconstruire dans la situation actuelle d'incertitude que vit la Grande-Bretagne. Et là, je travaille sur la Grande-Bretagne depuis une quarantaine d'années. Je n'ai jamais vu une telle campagne médiatique, politique, contre un dirigeant travailliste. Depuis que Corbyn a été élu en 2016 dirigeant du Parti travailliste, c'est un flot continu de critiques de toutes sortes.
Et pourtant, 2016, c'est récent, ça veut dire qu'il avait été confirmé.
Oui, c'est ça, il a été.
Dans le contexte du référendum.
Réélu en tant que dirigeant.
Parce que les élections de 2016, je crois qu'elles avaient été créées un peu pour le faire tomber. Il a été reconfirmé dans sa position.
Oui. Corbyn. Il faut rappeler, Corbyn est député travailliste depuis 1983. Il a été très proche d'un des grands dirigeants de la gauche travailliste qui s'appelait Tony Benn. Il a d'ailleurs soutenu la candidature de Benn à la fin des années 80 au poste de dirigeant adjoint du Parti travailliste. Donc c'est quelqu'un qui a une longue histoire au sein de la gauche travailliste. Son élection comme premier dirigeant du Parti travailliste a été une surprise réelle pour tout le monde, mais c'était la première fois qu'on élisait, Il y avait de nouvelles règles internes d'organisation des élections, et c'est la première fois que les membres du parti et les sympathisants du parti élisaient leurs dirigeants. Jusque-là, c'était un savant mélange de voix syndicales, du groupe parlementaire travailliste et des adhérents qui devaient désigner le premier dirigeant.
D'accord, c'était pas un vote à suffrage universel
non,
au
non,
sein
pas
du
tout.
Parti.
Et là, maintenant, c'est l'est. Et donc, ça montre bien, et d'ailleurs, il y a eu un afflux considérable de nouveaux membres au sein du parti travailliste qui a, si je me rappelle bien, à peu près 550 000 adhérents aujourd'hui. Pensez à la situation française, oui. Vous n'avez pas de parti avec eux, même En Marche, quoi. Un parti qui s'est révigoré ces derniers temps, mais la campagne a été telle contre Corbyn qu'il a beaucoup, beaucoup de mal à faire entendre sa voix, la voix de la nouvelle direction du Parti travailliste. Et moi, je suis les plus grandes craintes. Je lisais ce matin un article de Noam Chomsky dans la presse britannique, et Chomsky disait ce que je pense moi-même, à savoir que le seul espoir d'un renouveau travailliste vient par Corbyn et par le mouvement qu'il a créé, mais qu'il est plus que vraisemblable que Corbyn sera battu aux prochaines élections, parce que non seulement il est l'objet de critiques parfois violentes, Cameron l'a considéré comme un potentiel traître à la Grande-Bretagne, et il est victime donc de critiques virulentes de ses adversaires, mais aussi, et c'est aussi un peu nouveau au sein du Parti travailliste, des élus travaillistes.
Et comment vous l'expliquez, cette campagne violente contre Corbyn ?
Parce que c'est... On a posé la même question à Chomsky ce matin, et Chomsky disait, mais c'est relativement simple, il est en rupture avec ce que pense l'élite libérale mondiale, britannique en l'occurrence. Il dit des choses qui ne sont pas audibles pour les élites, les castes qui nous gouvernent.
On pourrait le qualifier de quoi ? De gauche radicale ?
Corbyn, il est sûr. Alors, il y a tout et son contraire dans la gauche radicale,
oui.
Mais Corbyn représente, c'est pour ça que j'ai mentionné Tony Benn, il est dans la tradition de la gauche travailliste. Dans sa politique, on a des choses qu'on connaît bien. Donc, sur un retour vers un secteur public digne de ce nom, la déprivatisation des services de santé. Bon, le service de santé est encore national en Grande-Bretagne, mais est de plus en plus affecté par ce qu'on pourrait appeler une privatisation rampante. Ce sont des choses qui sont plutôt traditionnelles à la gauche britannique. Mais je pense qu'effectivement, il dit des choses que, pour aller vite, on ne veut pas entendre.
Il n'est pas dans la pensée dominante ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Et lorsqu'on regarde les cadres du Parti travailliste, pour l'essentiel, ce sont des hommes et des femmes qui sont arrivés là où ils sont arrivés, soit députés, soit permanents du parti, pendant la période blairiste. Et Corbyn, c'est l'anti-Blair. Ah
ouais. C'est ce que j'avais demandé. Ces attaques, elles ne sont pas récentes, parce que ça fait quand même longtemps que la gauche... Le travail traditionnel est quand même affaibli au sein même du parti.
Maintenant, ils sont aux manettes, la gauche.
Et ils y arrivent.
Là, par exemple...
Mais ces critiques, ça vient plus... Donc, vous dites que ça vient donc des élus, d'élus, etc., d'une presse...
Alors, non, ce que je disais, ce qui est nouveau, c'est que, bon, que la presse conservatrice attaque le Parti travailliste, il n'y a rien de nouveau. Que la presse tabloïde fait des attaques personnel.
C'est pas nouveau non plus.
On l'a vu avec je parlais de Corbyn, mais le dirigeant du syndicat des mineurs pendant la grève de 84-85, qui s'appelait Arthur Scargill, a subi exactement le même traitement de la part des tabloïds qui a investigué sa vie privée, etc., pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'ils pouvaient utiliser contre lui. D'ailleurs, ils ont fait la même chose pour Corbyn, et il n'y a rien. Corbyn est d'un ascétisme absolument exemplaire. Il ne boit pas, il est végétarien. D'ailleurs, ce qu'on lui a reproché, vous vous imaginez pas, mais on a même réussi à reprocher à Corbyn qu'il était végétarien et barbu et qu'il portait des sandales avec des chaussettes en été. Mais ce qui est quand même nouveau, ça c'est un peu business as usual, que la presse, surtout de droite, se comporte comme ça, c'est malheureusement un fait britannique, un fait médiatique britannique. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas que la presse de droite, la presse de centre-gauche, en particulier The Guardian, qui a toujours été plutôt tolérant, on va dire, par rapport aux directions travaillistes successives, a été aussi, non pas virulent, mais a été aussi critique par rapport à Corbyn que le reste de la presse. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article dans le Guardian soulignant tel ou tel aspect négatif de la direction de Corbyn. Non, ce qui est complètement nouveau, c'est que il a l'appareil du parti contre lui. Là, il y a eu hier des fuites sur le programme travailliste pour les élections de juin, et c'est à peu près certain que c'est un permanent ou des permanents du parti qui ont fait des fuites pour miner la campagne déjà de leur propre dirigeant politique, Corbyn. Voilà, donc.
Mais j'ai entendu
c'est
là,
c'était un travail de Sisyphe qu'il a devant lui, Corbyn.
Il y a quelques jours, c'est à tout fin avril ou début mai, c'est aussi Tony Blair qui réapparaît.
Oui, Tony Blair, il doit s'ennuyer à faire autant d'argent. Il cherche à diversifier un peu ses activités. Je vous ai dit avant l'émission, Blair actuellement en patrimoine vaut 28 millions d'euros. C'était ce qui était indiqué dans la presse ces dernières semaines. Donc on peut peut-être considérer que son pactole étant fait, il peut se reconsacrer à la vie politique. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que, et ça c'est peut-être une leçon pour la France, il y avait un engouement tout à fait marquant lorsque Blair est arrivé au pouvoir en 1997, dans les médias, on parlait de sa jeunesse, sa capacité.
Ah, oui, on voit quand même beaucoup de parallèles avec ce qui nous arrive aujourd'hui.
Une grande bienveillance des médias.
Voilà, donc, d'ailleurs, on lui a donné un sobriquet à l'époque, on l'appelait Bambi. Il était tellement gentil, tellement sympa, tellement souriant.
Il y a quand même l'image compte énormément hein, entre le barbu qui met des sandales en chaussettes et le joli.
Sauf que il y a eu 10 ans de politique néolibérale qui était dans la prolongation du thatchérisme, qui a fait creuser les inégalités sociales en Grande-Bretagne, qui a laissé des régions entières en ruine. Et puis il y a eu la guerre d'Irak, dans laquelle Blair s'est lancé de manière totalement acritique par rapport à son allié George W. Bush, ce qui fait que Blair est devenu très rapidement, et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut peut-être attendre en France, il est devenu aussi impopulaire qu'il avait été populaire au début de son... Et c'est pour cela qu'il n'y a personne qui dit « Allez-y, tenez, revenez, on vous attend. » Il a fait plusieurs tentatives depuis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 3-4 mois maintenant, qu'il de temps en temps fait savoir dans la presse qu'il serait prêt à revenir dans la politique britannique. Mais pour le moment, il n'y a personne qui lui dit « C'est une bonne idée, il faut y aller. » Donc,
il reviendrait au sein du parti travailliste.
Ah ben ça, je pense pas. Non, je pense qu'on aura sans doute une construction comme on sait faire maintenant, qui serait de gauche et de droite, pas vraiment un parti.
Enfin, non, parce que la troisième voie, il connaît.
Voilà,
la troisième
voie, il connaît. Oui.
Donc ça semble difficile pour Corbyn dans les prochaines semaines.
Corbyn, c'est le temps politique est
à la fois
contraint et court.
Est-ce que la population vote et est-ce qu'il a quand même une base électorale
importante? Il a une base.
Alors,
ce auquel sans doute il faut faire attention, c'est que la mobilisation des militants, c'est une chose, la mobilisation politique électorale, c'est une autre. Et Corbyn a réussi la première, la mobilisation des militants. Il a un mouvement fort. Hein, un mouvement de base hein, qui est parti avec beaucoup de jeunes personnes qui venaient des mouvements sociaux, des réseaux sociaux, etc. en Grande-Bretagne, qui avaient déjà été aguerris dans les campagnes qu'on a fait contre la fraude fiscale, etc. Il y a eu des grosses campagnes dans contre des fraudeurs fiscaux en Grande-Bretagne, avec l'occupation des magasins qui étaient la propriété de ces fraudeurs. Donc il y a des gens qui viennent avec cette expérience. Il a un vrai mouvement militant derrière lui. Je vous dis, le Parti travailliste a fait un bond en avant au niveau des adhérents. Donc il y a un socle de militants jeunes, un peu à l'image des puisque je suis écossais, j'en parle, des jeunes militants nationalistes et écossais. Il y a un mouvement qui est semblable en Écosse autour de la question de l'indépendance, mais autant Corbyn a cette mobilisation derrière lui, autant pour le moment, si on en juge par les sondages et surtout si on en juge par les résultats électoraux locaux et les élections partielles qu'il y a eu depuis qu'il est arrivé, il ne mord pas. Il n'avance pas vraiment.
Si on revient au Brexit, quel est aujourd'hui son discours
Lui, il était sur la position, ce que je disais tout à l'heure, qui était qu'il fallait que la Grande-Bretagne reste en Europe pour la transformer. Bon, et il continue à être extrêmement critique, comme la plupart des dirigeants de la gauche, de la vraie gauche en Europe. Il continue à être extrêmement critique par rapport au comportement de l'Union européenne.
Est-ce que ça ne le dessert pas justement d'avoir été dans ceux qui ont perdu et qu'il n'est plus forcément un acteur valable aujourd'hui qu'on est parti dans le Brexit ?
C'est surtout qu'il n'est pas encore arrivé à regagner pour le Parti travailliste les couches populaires. Des régions anciennement industrielles de la Grande-Bretagne qui, eux, sont partis sur la base du Brexit vers soit le parti conservateur, soit le parti xénophobe, le UKIP, donc United Kingdom Independence Party, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Il y a une bonne nouvelle, hein, quand même, depuis, c'est que apparemment le référendum du Brexit et son résultat a fait imploser le parti xénophobe, l'UKIP. Hein. Pas un seul élu aux élections locales, d'il y a quelques jours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'une partie de cette masse-là qui avait voté le Brexit sur des positions xénophobes se retrouve aujourd'hui en soutien au Parti conservateur.
Parce que la difficulté, finalement, c'est de faire entendre un discours de politique, je veux dire, sociale, coopératiste, enfin, oui, de vraie gauche, quoi. Tout en finalement approuvant une appartenance à une Union européenne, mais dont effectivement aujourd'hui la politique est ultra-libérale. Donc c'est compliqué.
C'est un message qui est extrêmement compliqué à faire passer. Hein. C'était plus simple la position ancienne de la gauche travailliste, il n'y avait pas que la gauche travailliste, d'ailleurs le Parti national écossais était sur la même position, qui était que si on veut transformer nos pays, il faut quitter la communauté européenne. Les règles sont trop strictes, on nous impose un libéralisme qui nous répugne. Si on veut construire un avenir par une politique qui est résolument sociale, c'est pas au sein de l'Union européenne qu'on pourra le faire. Donc c'est vrai que le nouveau discours du Parti travailliste et même de la gauche travailliste, hein, qui est il faut y rester pour la transformer, n'est pas simple à faire passer. Elle est d'autant plus difficile à faire passer que l'expérience grecque a été très très suivie en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de sympathie entre la gauche britannique et la gauche grecque. Varoufakis est quelqu'un qui vient régulièrement, qui a une base en Grande-Bretagne, qui est régulièrement interviewé dans la presse britannique. Et je pense que l'expérience grecque a beaucoup conforté ce que j'appelais tout à l'heure les pessimistes. Enfin, c'est peut-être un peu péjoratif, pessimistes, ou les réalistes, ceux qui considèrent que avec les contraintes actuelles, ils vont mieux pas. Si on veut transformer nos pays dans le bon sens, ils vont mieux peut-être pas être membres de l'Union européenne. Voilà.
En tout cas, sans vouloir être pessimiste, mais ça veut dire qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui dans le discours politique une place pour un discours de gauche. Enfin, oui, si on parle de comment on sort de l'Union européenne, c'est pas en allant vers une transformation de gauche.
Non, non. Et puis bon, il faut même après avoir dit cela, je me rends compte quand même que l'atmosphère pendant et après le Brexit en Grande-Bretagne est assez irrespirable. Vous avez peut-être pas vu les images du premier congrès du Parti conservateur après le Brexit, mais c'était impensable. On avait l'impression justement d'être dans un congrès de l'UKIP, avec des prises de position xénophobes complètement débridées. Le vote du Brexit a désinhibé toute une partie des militants conservateurs qui étaient sur des positions xénophobes, mais qui ne le disaient pas trop. Et là, maintenant, ouvert les portes.
Et dans l'opinion publique, on ressent la même chose aussi des clivages. On a parlé des clivages entre nations à l'intérieur des partis, mais il y a également dans la population.
Oui, je pense que là. Je pense qu'on a fait un pas en arrière considérable, ce que je viens de dire, pendant et après le Brexit, et que les idées xénophobes ont fait leur chemin. Ceci étant dit, la vie politique britannique est encore assez effervescente, donc il y a une opposition à cela. Il y a une forte opposition. D'ailleurs, moi, je suis étonné ici. Je prends encore le cas de l'Écosse, bien sûr, mais si on regarde en Écosse, les mêmes causes, la désindustrialisation, la présence importante de migrants ou de travailleurs migrants qui travaillent souvent dans des conditions peu acceptable parce que travailleurs détachés, etc. Vous avez les mêmes causes, mais vous n'avez pas une montée de xénophobie en Écosse. Il n'y a pas de campagne xénophobe contre les travailleurs migrants en Écosse. Ce qui veut dire que il y a rien de automatique dans cette génération de xénophobie. Ça a été plutôt, il faut le dire, un phénomène anglais. Et les Écossais se sont fait plutôt une fierté de dire que l'Écosse est une société multiculturelle, qui a une place pour tout le monde. D'ailleurs, si on regarde la politique du Parti national écossais au niveau de ses élus, vous comprendrez tout de suite, lorsque vous allez en Écosse, qu'ils ont bien compris la nécessité de promouvoir l'ensemble de la diversité ethnique écossaise au niveau de leurs élus. Vous avez des élus nationalistes d'origine pakistanaise, d'origine indienne, d'origine française. D'ailleurs, il y a un député français du Parti national écossais à Édimbourg. Ça, c'est plutôt une réussite. Il ne faut pas non plus être trop enthousiaste par rapport à tout cela, puisque le néolibéralisme, ce que j'écris depuis des années, a fait de tels progrès, de telles avancées politiques et intellectuelles en Grande-Bretagne, qu'il n'y a aucun parti qui y échappe. Bon, le Parti travailliste essaye aujourd'hui de sortir du consensus néolibéral, mais le Parti national écossais, qui, par certains égards, a été plus à gauche que le Parti travailliste pendant la période blairiste, vous me direz que c'est pas difficile, mais y compris le Parti national écossais a été fortement influencé par la théorie néolibérale. Bon, sur la taxation des entreprises, par exemple, les Écossais regardent, les nationalistes écossais regardent du côté de la République irlandaise, considérant qu'il faut baisser les taxes des entreprises pour les faire venir sur le territoire écossais.
Et par rapport aussi à l'impact titre intellectuel du néolibéralisme, on voit que c'est aussi ce dont souffre Corbyn aujourd'hui, c'est la fin de l'action collective, le fait de ne pas vouloir assimilé à des populations vulnérables ou modestes.
Oui, c'est une des grandes victoires idéologiques de notre période, malheureusement.
En tout cas, même si des fois les mêmes causes n'ont pas les mêmes effets, on voit aussi quand même les leçons qu'on peut tirer. Parce qu'on a quand même beaucoup de parallèles avec des choses qu'on vit, qu'on aurait pu vivre et puis qu'on va vivre.
Donc on va voir le résultat des prochaines élections.
Donc c'est le 8 juin ?
Oui.
Donc c'est les élections des députés, c'est ça ?
Oui, c'est les élections pour le Parlement de Londres.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. On vous remercie encore vraiment beaucoup de vous être déplacé et d'être venu répondre à notre invitation. Et on vous dit à dans 2 semaines.